Radio Okapi.
Le journal Pierrot et la Mégie.
Mesdames, Messieurs, voici le titre de votre journal. Pas de reprise des cours ce lundi 8 février dans les écoles primaires et secondaires de la RDC a annoncé ce mercredi 3 février le ministre de l'EPST, Willy Bakonga, en marge d'une interview réalisée dans son cabinet de travail. Le monde célèbre ce 4 février la journée mondiale contre les cancers. Les spécialistes recommandent le dépistage précoce pour éviter aux malades d'arriver aux traitements lourds comme la chimiothérapie, comme nous le témoigne Madame Angèle Josa dans ce journal. Et nous aurons aussi le professeur Bienvenu Leboisé, président de la Ligue nationale des cancérologues de la RDC, qui sera l'invité de votre journal. En Ituri, une administration parallèle établie par les miliciens de la Codeco dans la commune de Mungwalu et ses environs, selon des sources concordantes, ils exigent des contributions de montants qui varient entre 200 à 400 dollars américains, notamment à la FEC et à l'association des négociants d'or. Merci de suivre ce journal mis en onde par Polydor Basunga. Commençons d'abord par cette information de Kinshasa. Un double accident de circulation au niveau du saut des moutons de rond-point Sosimata à la Gombe. Hier soir, un bus de transport en commun dit Esprit de Vie s'est renversé à l'entrée du saut des moutons en provenance des Kitambo magasins vers le centre-ville. Les témoins sur place attribuent cet accident à l'excès de vitesse. Et ce matin, une Jeep qui empruntait la même direction voulant éviter le bus renversé s'est retrouvée au-dessus du séparateur métallique. Pour l'instant, aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Cette situation a entraîné un embouteillage monstre sur ces carrefours. Pour sa part, le président de la Commission nationale des préventions routières, CNPR, appelle les usagers de la route au respect strict des panneaux de signalisation au niveau des sauts des moutons. On écoute Jean-Rémy Nganga au micro de Alain Hirung.
Le conseil que je peux prodiguer aux conducteurs, qu'ils respectent les panneaux implantés tout au long des sauts des moutons. Les gens disent il n'y a pas le panneau de la signalisation verticale. Mais je vous dis qu'il n'y a pas que ça. Nous avons trois sortes de signalisation en République démocratique du Congo. La signalisation verticale, la signalisation lumineuse et puis la signalisation horizontale. Mais au niveau du saut de mouton, le Sosimat, justement, il y a les marquages au sol. Et le conducteur qui connaît cette notion doit respecter cette signalisation. Nous avons limité la vitesse avant d'accéder sur l'ouvrage. Et tout conducteur qui connaît interpréter la signalisation doit savoir qu'à 20 mètres, il y a un ouvrage qu'on appelle saut des moutons. Et il doit ralentir pour monter à 40 en l'air. Et quand il dépasse l'ouvrage, il y a un panneau barré qui dit « Continue avec la vitesse maximale qui est limitée à 60 sur le boulevard. » Mais je m'étonne qu'il y a les 4 jours d'accident. Ça, c'est le deuxième cas d'accident. Le troisième même, c'est le saut des moutons Sosimat. Et pourquoi ne respectez pas cette signalisation? Mais il y a aussi les panneaux interdisant tout véhicule au-delà de 55 tonnes d'accéder à l'ouvrage.
Il n'y aura pas de reprise des cours ce lundi 8 février dans les écoles primaires et secondaires de la RDC, a annoncé ce mercredi 3 février le ministre de l'EPST, Willy Bakonga, en marge d'une interview réalisée dans son cabinet de travail. Alain Hirung nous en dit plus.
La décision de la reprise des cours n'est pas uniquement l'apanage du ministère de l'EPST. Les experts du ministère de l'EPST ont travaillé sur plusieurs calendriers avec les hypothèses de différentes dates de reprise des cours. Toutes ces propositions sont en examen au niveau du ministère, au niveau du gouvernement et du comité multisectoriel de lutte contre la COVID-19. Dès que la situation le permettra, le président de la République lèvera une option et la date vous sera communiquée officiellement, promet Willy Bakonga. Il appelle les parents et les élèves au calme. Je saisis cette opportunité pour appeler au calme et à la sérénité les enseignants, les élèves, les parents, les partenaires éducatifs. C'est une situation inédite que nous sommes en train de traverser, mais nous mettons toutes les batteries en marche pour sauver l'éducation de nos enfants, souligne le ministre.
Au sud Kivu, les enseignants des écoles catholiques exigent un contrôle d'audit en province sur la gestion du secteur éducatif. Ils réagissent ainsi à la décision de la Banque mondiale de reporter le décaissement des 100 millions de dollars qui devraient soutenir la gratuité de l'enseignement des bases en RDC. En attendant d'en savoir plus sur les révélations de l'IGF relatives au détournement des fonds dans les secteurs éducatifs, le syndicat national des enseignants des écoles catholiques au sud Kivu dit ne pas comprendre comment un petit groupe de gens fait perdre l'espoir à toute une nation. Jacques Chirimouami, secrétaire provincial du Sénécat au Sud Kivu, est joint par Jean-Baptiste Tonga.
C'est
c'est avec les larmes aux yeux que nous avions suivi le retrait de la Banque mondiale dans l'accompagnement de la gratuité de l'enseignement. En tout cas, notre dernier espoir, c'était le financement de cet apport. On savait que si la gratuité a connu des problèmes, avec ce que devrait donner la Banque mondiale, on avait déjà l'espoir. Mais voilà aujourd'hui, bien que jusque-là, ça ne soit pas approuvé officiellement, mais ça va nous surprendre négativement que 4 personnes puissent endeuiller plus de 600 000 familles des enseignants qui attendaient, qui avaient déjà l'espoir. Et voilà donc que ça fait mal et il est question alors que le gouvernement prenne ses responsabilités. Nous prions l'IGF, l'inspection des finances, de descendre aussi en province pour faire cette même enquête, en fait que tous les gens qui ont trempé dans les magouilles soient desserrés à la justice.
Comme je le disais dans les titres, ce 4 février, c'est la journée mondiale contre le cancer. Une journée pour sensibiliser la population sur cette maladie qui doit être dépistée le plus tôt possible. Selon les spécialistes, le dépistage précoce évite aux malades d'arriver aux traitements lourds comme la chimiothérapie. Madame Angèle Josa, 62 ans, est justement passée par la chimiothérapie à la suite d'un cancer du sein dépisté en 2010. Pour elle, non seulement la chimiothérapie coûte cher, mais elle a des graves conséquences sur le corps. Elle nous partage son expérience au micro de Rosalie Zawadi.
Chimiothérapie, vraiment, c'est le soin le plus difficile que j'ai connu dans ma vie, puisque ça a enlevé d'abord les cheveux, ça m'a enlevé les dents. Pour le moment, je vis avec les prothèses dentaires. Quelques ongles aussi étaient enlevés, mais heureusement, Dieu merci, ça a repoussé. Mais c'était les soins qui m'ont coûté trop cher. Ça m'a conduit à déranger presque toute la famille pour m'aider. Si je peux coter avec radiothérapie, chimiothérapie, l'opération, donc pour couper les seins, tout ça, nous sommes allés presque dans les 5 000 $. Quand je me suis fait soigner, par exemple, au Rwanda, c'est le gouvernement qui prend à charge les gens qui souffrent de cancer. Moi, j'ai payé plus de 200 $ pour séance de chimiothérapie, mais les Rwandais payaient 30 $. Donc, c'était totalement pris à charge par leur gouvernement. Mais ici, au Congo, chacun pour soi, là, ça devient compliqué.
Madame Angèle Josa demande au gouvernement congolais de venir en aide aux malades du cancer en prenant en charge une partie des soins, car avec le revenu moyen des Congolais, c'est encore très difficile. Parlons encore de la célébration de cette journée à Beni, où les professionnels de la santé se sont intéressés spécifiquement au cancer du col de l'utérus. Notons que cette maladie mortelle est observée à une faible fréquence dans les structures sanitaires de la place où les femmes se font dépister. Tout en énumérant les causes majeures de ce type de cancer, les professionnels du domaine de la santé recommandent vivement aux jeunes filles dont l'âge varie entre 13 et 35 ans de se faire dépister régulièrement pour cette maladie. Docteur Gisèle Kilomba, médecin directeur de la clinique Ma Famille de la ville de Beni, est au micro de Marc Marofimbo.
Je peux parler de la sexualité précoce. Toutes ces jeunes filles-là qui commencent la vie sexuelle à bas âge, ils s'exposent à la longue. Il y a aussi des accouchements rapprochés. Chaque année, je fais des enfants. Il y a aussi beaucoup d'accouchements. Beaucoup de nos mamans ont fait 15, 10, 9. Ce sont des facteurs qui favorisent le développement d'un cancer du col de l'utérus. Il y a aussi multipartenariats sexuels. Il y a dames qui ont beaucoup de partenaires et là-bas ils peuvent contracter ce qu'on appelle le human papillomavirus. Le human papillomavirus, c'est lui qui est vraiment le facteur du cancer du col de l'utérus. Donc c'est parmi les causes là. Mais il faut d'abord dépister. Toute femme à l'âge de procréation est censée se faire dépister pour savoir si elle n'est pas encore en contact avec ce virus-là qui, à la longue, peut causer la maladie du col et de l'utérus.
Parlons politique dans ce journal. L'étau se resserre sur le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, alors que le procureur près la Cour des cassations attend la levée de ses immunités pour engager des poursuites contre lui pour détournement de deniers publics. Le secrétaire général du Sénat vient d'installer ce jeudi le bureau d'âge qui sera chargé d'examiner les pétitions contre le président du Sénat et son bureau. Le rapporteur du Sénat a dénoncé cette démarche en pleine vacances parlementaires. Par ailleurs, l'inspection générale des finances vient d'exiger à Alexis Thambwe Mwamba de justifier dans 5 jours l'utilisation de plus de 107 milliards de francs congolais mis à la disposition du Sénat. Michel Kifindangoy.
Dans sa correspondance parvenue ce matin à Radio Okapi, l'inspection générale des finances, l'IGF, invite Alexis Tambwe-Mwamba et ses services à fournir les justifications sur l'usage de plus de 107 milliards de francs congolais mis à la disposition du Sénat. Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'IGF n'accorde qu'un délai de 5 jours à dater de la réception de sa correspondance. Alexis Tambwe-Mwamba devra donc faire parvenir par écrit à l'IGF les éléments de réponse. Passer ces délai, ces observations seront considérées comme définitives, indique la correspondance de l'IGF. Et une situation qui vient s'ajouter sur une pétition contre Tambwe-Mwamba et son bureau, qui pousse d'ailleurs le secrétaire général du Sénat à installer au cours d'une plénière ce jeudi le bureau d'âge pour examiner la dite pétition. Toutefois, Alexis Tambwe-Mwamba peut encore compter sur le soutien indéfectible des sénateurs du FCC. Comme si cela ne suffisait pas, le président du Sénat doit aussi faire face à la justice. Le procureur général près la Cour de cassation n'attend que l'autorisation du Sénat pour engager des poursuites contre Alexis Tambwe-Mwamba pour détournement de 2 millions d'euros et 1 million de dollars. Accusation rejetée en bloc par le concerné.
Rendons-nous à Nitouri où des miliciens de la CODECO ont établi une administration parallèle dans la commune de Mongualou et ses environs à environ 80 km au nord de Bounia. Selon des sources concordantes, ils exigent des contributions d'un montant qui varie entre 200 à 400 dollars américains, notamment à la Fédération locale des entreprises du Congo et à l'Association des négociants d'or. Ces miliciens exploitent également de l'or depuis une semaine au site minier de la compagnie de Mongualou Gold Mine. Les acteurs de la société civile dénonce la défaillance de l'État. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Les miliciens du groupe armé URDPC Codeco continuent à affluer dans la concession de l'entreprise Mongualou Gold Mining qui est interdite à l'exploitation. Ils ont adressé une correspondance à l'AFEC et à l'Association des exploitants d'or pour exiger leur contribution pour un montant de 200 dollars pour accueillir leur leader. Ces miliciens ont tenu un meeting populaire dans la localité de Plito à 7 km de Mongualou. Ils profèrent des menaces et d'intimidations à tous ceux qui ne se soumettent pas à leur administration. Le coordonnateur de la société civile locale, Denis Massico, déplore ce qu'il qualifie de dédoublement de l'État dans la région minière.
Le Mongol est divisé à deux parties. Il y a la partie qui est envahie par les côtes de couvert MGM, il y a la d'autres parties qui est pour l'État congolais. Seulement que l'État congolais puisse faire son travail.
Contacté, le ministre provincial de l'Intérieur appelle ces éléments à respecter l'engagement qu'ils ont signé. Adio Guidi rassure la population sur l'engagement du gouvernement pour le rétablissement de l'ordre dans ces sites miniers.
Notre population est victime de l'activisme de tous ces groupes armés. Sachez que la justice vous attend.
Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
À Nioki, une cité située dans la province de Maïndombe, plus de 15 personnes ont été tuées durant l'année 2020 par des jeunes gens qui utilisent la machette pour se faire justice. C'est ce que relève le rapport annuel de l'ONG Action pour la défense des droits humains, ADH, section de Nioki. Fidel Dizorongo, qui est son coordonnateur, indique que les auteurs de ces actes ne sont jamais inquiétés par la justice. Il s'est dit préoccupé et demande auprès du ministre provincial de l'Intérieur l'installation d'un bureau de la police criminelle sur place à Nioki, en vue de la sécurité de la population. Le point avec Irène Boma.
Selon le coordonnateur de l'ONG ADH, Action pour la défense des droits humains, une structure de la société civile œuvrant dans la cité de Nioki au Maïndombe, cela fait déjà un temps depuis que la criminalité a pris une autre allure dans cette cité. Fidel Dizorongo indique qu'en plus des cas de vol qui s'enregistrent chaque jour et du banditisme urbain, les jeunes gens se sont donnés à tuer les gens par la machette pour se faire justice. Déjà, plus de 15 personnes ont perdu la vie en 2020 à la suite de ces sales comportements, relève les rapports de cette structure, a-t-il dit. Fidel Dizorongo, qui déplore cette situation, explique.
Donc, en cas de problème, les jeunes se font justice. Ils utilisent la machette tramontinant jusqu'à faire la justice populaire. On accuse des gens d'être sorciers. Les autres, c'est par vengeance pour n'avoir pas eu gain cause au niveau de la justice. Alors, ils font ce que j'ai dit là, la justice populaire. Les gens meurent. Plus de 16, de 15 personnes à cause de ces assassinats-là.
Il demande au ministre provincial de l'Intérieur du Maïndombe d'installer un bureau de la police criminelle à Nioki pour renforcer la sécurité de la population.
Tous ces gens, ils sont libres et circulés dans la cité de Nioki. C'est ainsi, nous demandons au ministre de l'Intérieur de s'en occuper en plaçant un bureau de la police criminelle à Nioki.
Les coordonnateurs de l'ONG ADH Nioki appellent les jeunes gens à la tolérance. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Au Kassai Oriental, les produits de première nécessité vont bientôt inonder le marché de Mbujimayi. Les directeurs en charge de marketing, business et développement à la direction générale de la SNCC, Société Nationale des Chemins de Fer du Congo, affirment que dans très peu de temps, les produits en provenance de Lubumbashi vont arriver à la gare ferroviaire de Mwene-Ditou. Au cours de la rencontre le week-end dernier avec les opérateurs économiques de Mbujimayi, Eric Kabongo Mulembayi a annoncé quelques dispositions prises par la SNCC pour encourager les opérateurs économiques à lui confier leurs marchandises pour le transport vers Mwene-Ditou. Suivons-le au micro d'Esther Ndalafina.
On a contrôlé sur la ligne, dans nos gares, il y a des produits qui sont en chargement vers la destination de Mwene-Ditou. Plus précisément, les ciments qui a fait l'objet de notre souci, nous avons pris des dispositions. Au moment où je vous parle, au niveau d'Ilebo, plus ou moins 1500 tonnes de ciment qui sont déchargées. Et Lubumbashi avait dans les pipelines plus ou moins 440 tonnes. Donc si vous prenez tout ça, nous sommes à plus ou moins 2000 tonnes de ciment. Les produits tels que le sel, les huiles végétales, la SNC a pris toutes les dispositions. Les dispositions tarifaires, on a rabattu les tarifs pour qu'il y ait abondance sur le marché. Ce n'est pas seulement le marché de Mbujimayi, mais sur tout le réseau, on a rabattu le tarif. Et c'est pour cela que je suis venu, pour voir qu'est-ce qui manque et qu'est-ce que je dois faire. Toutes les instructions ont été données et dans 48 heures, en ce qui concerne le trafic ex-Lubumbashi vers Mwene-Ditou, vous allez voir que le marché sera inondé. La loi de l'offre et de la demande jouant, les prix vont descendre. Nous voulons que ça soit pérenne. La SNCC est là, les wagons sont disponibles.
Actualité internationale.
Au Niger, le MNSD et le MPR, les deux partis politiques dont les candidats sont arrivés troisième et quatrième au premier tour de l'élection présidentielle du 27 décembre, ont choisi leur camp pour le second tour du 21 février. Ils appellent leurs militants à voter pour les candidats du PNDS, parti au pouvoir Mohamed Bazoum. Et au Liban, les militants libanais Lokman Slim, connu pour ses positions critiques envers le mouvement chiite Hezbollah, a été retrouvé mort jeudi tué par balle dans le sud du pays. Les commentateurs politique a été retrouvé tué d'une balle dans la tête, dans sa voiture et dans la région d'Al Adusey, dans le sud du Liban, a précisé une source sécuritaire sous couvert d'anonymat. L'épouse et la sœur de la victime avaient déjà signalé sa disparition depuis mercredi soir.
L'invité.
C'est le professeur Bienvenu Le Boisé, président de la Ligue nationale des cancérologues de la RDC. Il est actuellement le directeur du Centre national de lutte contre les cancers qui vient d'être créé. Et à l'occasion de la journée de lutte contre les cancers qui est célébrée ce 4 février, il parle de nouvelles stratégies mises en œuvre par le gouvernement pour lutter contre les cancers en RDC, dont la situation est presque alarmante selon lui. On l'écoute dans cet entretien avec J.R. Lungembo.
Professeur Le Boisé, bienvenue, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors, quelle est la situation du cancer aujourd'hui en RDC?
Alors, je vais d'abord commencer par remercier Radio Okapi de l'opportunité qu'elle nous donne. Là, je vous parle en qualité du directeur du Centre national de lutte contre le cancer. Comme vous savez, ça a été créé le 7 novembre dernier par le ministre de la Santé que nous saluons pour la clairvoyance. Je vous dis que la situation est dramatique sur le point de vue chiffre. Si je ne prends que l'exemple de Kinshasa, je vous dis, donc 33% des cas, il s'agit des cancers. Sur les 5 dernières années, et tu verras que oui, 27-28% de tout ce qu'il y a comme analyse reçue, c'est les cancers du sein. Autour de 22-23%, c'est les cancers du col. Donc, les deux cancers là, le cancer du sein et le cancer du col, c'est la moitié de cancers diagnostiqués chacun. Il est peut-être réalisé de façon disparate, éparse, dans des petits coins. Et c'est ainsi que le ministre nous a confié, nous a donné mission de pouvoir fédérer toutes les forces vives de la nation pour organiser, réguler et planifier cette lutte à travers l'étendue de la République.
Pourquoi avoir attendu si longtemps pour mettre sur pied ces centres?
Ça tardait parce que bon, maintenant on est peut-être, pas peut-être, mais certainement devant des autorités qui ont un peu plus une oreille attentive aux doléances de la communauté. Et je salue en passant, hein, donc... Voilà la vision du chef de l'État qui passe par les ministres de la Santé, qui a eu comme ça la clairvoyance de mettre en place le centre qui nous a été promis par d'autres, je n'accuse personne. Mais là, vraiment, c'est l'occasion de le saluer. Il a posé un acte vraiment courageux et qui va sauver des vies dans les jours à venir. Ce n'est pas tard, ce n'est pas tard, parce que s'il faut prendre l'exemple, je prends que l'exemple autour de nous, le Congo d'en face, ils viennent aussi de créer le programme national. Donc c'est pas tard, le gouvernement, dans la vision que la vision actuelle va organiser la lutte contre le cancer et nous a responsabilisés de pouvoir planifier, manager et bien entendu réguler toute cette lutte sur l'ensemble des étendues nationales. Moi, je trouve que c'est tard, bon, ça dépend, mais moi, je trouve que c'est une bonne chose. Ça arrive tard au bout par rapport à d'autres, peut-être les pays occidentaux et les voisins, surtout de l'Est, mais ça arrive quand même. Donc, on va commencer la lutte pour pouvoir l'intensifier sur l'ensemble du territoire national.
Alors, l'avènement de ces centres aura-t-il un impact sur les coûts même de la prise en charge de ces cas de cancer?
Chaque année, le 4 février, on fait du bruit. Voilà, il faudra organiser la lutte contre les cancers. Ah ben oui, bien sûr, l'État congolais a contracté avec un partenaire, je ne vais pas le cacher, c'est la firme Roche. Pour les 5 ans à venir, les gouvernements congolais et Roche ont constitué un panier. Roche apporte une partie, les gouvernements apportent une partie. Et dans ce panier va servir dans la lutte contre les cancers sur toutes ses facettes, c'est-à-dire de la sensibilisation jusqu'à un suivi personnalisé, en passant par le dépistage, le diagnostic, les traitements médicaux, les traitements spécifiques des cancers, et puis les soins palliatifs, les suivis personnalisés. Ah ben oui, bien sûr, si le ministre a pris la décision, c'est parce que l'État congolais a contracté avec un partenaire, je ne vais pas le cacher, c'est la firme Roche. Pour les 5 ans à venir, les gouvernements congolais et Roche ont constitué un panier, Roche apporte une partie, les gouvernements apportent une partie, et dans ce panier va servir dans la lutte contre les cancers sur toutes ses facettes, c'est-à-dire de la sensibilisation jusqu'au suivi personnalisé, en passant par le dépistage, le diagnostic, les traitements médicaux, les traitements spécifiques des cancers, et puis les soins palliatifs, les suivis personnalisés. Vous voyez, donc le gouvernement a une stratégie unique, donc contracté avec un partenaire qui apporte le matériel, qui apporte l'expertise, qui va former les Congolais, et le gouvernement nous a responsabilisés pour pouvoir travailler de commun accord avec ses partenaires sur les 5 années à venir, et ainsi mettre en place une stratégie nationale de lutte contre les cancers sur l'ensemble du territoire national.
Donc on peut le dire sans hésiter que l'avenir de lutte contre le cancer en RDC sera radieux.
Ah, vraiment, nous restons optimistes vu le moyen, en fait, le partenariat actuel du gouvernement avec Roche. Nous restons optimistes et les centres nationaux ne peuvent pas se limiter que partenariat avec Roche, va s'ouvrir à d'autres partenaires.
Professeur Leboisé, bienvenue. Merci d'avoir bien voulu nous accorder cet entretien.